Suivez le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons en direct pour ce deuxième jour du Salon de la biodiversité et du génie écologique qui se déroule conjointement au Salon des maires à la Porte de Versailles. Dans cette émission réalisée en partenariat avec les ministères des territoires, de l'écologie et du logement, nous allons aborder le sujet de la biodiversité et du tourisme durable, conciliation entre préservation et usage. Depuis plus de 30 ans, la France est la première destination touristique mondiale. 2023 s'est révélé une année exceptionnelle pour le tourisme français avec 98 millions de visiteurs. Tout en étant un atout formidable pour la France, la nécessité d'un tourisme durable s'impose, notamment en préservant nos espaces naturels. Comment concilier préservation et usage sans pour autant mettre sous cloche? Comment prendre en compte les enjeux de biodiversité dans le secteur du tourisme? Existe-t-il des outils recommandés par l'État? Nous allons explorer ce sujet avec nos trois invités en découvrant des initiatives locales portées par des élus engagés qui ont permis de relever ce défi. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Didier Réau. Vous êtes président du Parc national des Calanques, vice-président de la métropole de Aix-Marseille-Provence, délégué à la mer, au littoral, au cycle de l'eau, à la GEMIAPI et au port. À vos côtés, Ferdi Louisi, maire de Goyave, et vous êtes également président du Parc national de Guadeloupe et président du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Juliette Moiseau, adjointe à la sous-directrice des entreprises au ministère des Territoires, Écologie et Logement. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct, nos invités du jour, et répondront en seconde partie d'émission avec l'appui d'Hélène, que je salue, qui est chargée de mission mobilisation des territoires à la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. À tout à l'heure, Hélène. Nous allons commencer avec vous, Didier Réau. Pouvez-vous un petit peu nous raconter la genèse du dispositif Réserver, c'est préserver? Qu'avez-vous mis en place exactement?
Alors, ce que nous avons mis en place au sein du Parc national des Calanques, c'est effectivement une idée de pouvoir limiter la fréquentation d'un site exceptionnel qui était très dégradé du fait du piétinement, du fait d'une fréquentation maritime et terrestre très importante et d'un désordre qui était constant. Le parc national des Calanques, il est installé dans une métropole de 2 millions d'habitants, la métropole Aix-Marseille-Provence. Et donc on a une fréquentation extrêmement importante sur tous les sites. Celui-ci de Sugiton était facilement accessible par une piste DFCI où il fallait une heure de marche pour y accéder et finalement tout à chacun pouvait y arriver assez facilement. Et puis elle était accessible aussi par la mer et donc on se retrouvait avec parfois 2000, 2500, 3000 personnes présentes sur cette calanque de Sugiton qui manifestement ne pouvait plus accepter tout ça, à la fois en fond de calanque mais aussi sur les hauteurs, puisqu'on avait des sentiers qui étaient créés de façon sauvage et qui dégradaient l'ensemble des plantes et qui dévastaient un certain nombre d'espèces qui vivaient dans ces plantes. Donc on a cherché, on a essayé de travailler avec un certain nombre d'associations, avec un certain nombre de cabinets d'études, avec les collectivités, avec les associations aussi sportives de randonnées diverses et variées, les propriétaires fonciers, que ce soit la ville de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône ou le conservatoire des littorales. Et on s'est dit que de toute façon, on ne pouvait pas régler le problème avec un système qui était payant et qu'il fallait profiter d'un outil qui permet de faire de la sensibilisation. Et donc on a choisi le phénomène la solution de réservation avec une jauge à 400 personnes et qui nous permettait justement d'assurer un équilibre entre la nature et la fréquentation, la découverte de la nature et la préservation de cette même nature. Et puis on s'est aperçu que cette réservation, même s'il y a eu quelques hauts cris à un moment donné, elle fonctionnait plutôt bien et que, in fine, évidemment, on avait un avantage sur le territoire, sur le terrain, mais aussi un avantage de la qualité de la fréquentation par le visiteur. Et ça, c'était aussi extrêmement important. C'est-à-dire que le visiteur, quand il venait et que c'était surchargé, il repartait pas forcément content. Mais quand il venait où on avait fait cette jauge, eh bien, ils trouvaient que l'expérience était nettement meilleure.
Plus qualitative.
On gagnait aussi dans le retour d'expérience et dans le halo de commentaires qui étaient faits en disant, finalement, avec cette réservation, on a passé un meilleur moment qu'avant.
L'enjeu, c'est de communiquer sur cette initiative. Comment vous avez fait pour informer, justement
Alors, on a d'abord lancé un appel à idées, si je puis dire. Alors, certains ont dit oui, il faut faire payer, oui, il faut absolument faire interdire. Enfin, on a eu toutes les solutions. Et puis, on a travaillé ensuite sur une logique d'application, comme ça se fait un peu partout. Et en réfléchissant aussi par des professionnels de l'accueil d'un fort public, notamment les parcs de distraction, pour ne pas citer une marque, qui sont habitués justement à gérer une surfréquentation ou une fréquentation extrêmement importante. Et on s'est inspiré, ni plus ni moins, que de la solution du coupe-fil, où on est en capacité justement d'accepter une fréquentation en rapport avec la capacité d'accueil.
Donc, rappelez-nous, cette initiative a été mise en place quand ?
Elle a été mise en place il y a 2 ans maintenant, 3 ans maintenant, c'était la 3e année cette année, et elle a été mise en place dès le printemps, sur certains week-ends. Elle court sur le mois de juillet et sur le mois d'août et sur les week-ends de septembre, de façon à ce qu'on ait au plus fort moment de la fréquentation une capacité de réguler l'accueil du public.
Quelles sont les difficultés ou les petits blocages peut-être que vous avez rencontrés en mettant en place une initiative comme ça ? Il y a eu un peu de résistance
Il y a eu quelques commentaires de quelques-uns. Franchement, c'était franchement pas beaucoup. Il y a eu surtout de la curiosité sur la capacité d'application de la jauge sur la calanque de Sugiton. Ce qui nous a été... Ce qui a été un point positif, c'est qu'effectivement, ça restait gratuit, que deuxièmement, il n'y avait pas d'interdiction et que finalement, on avait une capacité de réserver assez simplement.
Oui, c'est ça.
Et ceux qui pouvaient contester, finalement, se sont aperçus, comme nous d'ailleurs, que bien que ça soit réservé au maximum tous les jours, la fréquentation n'était pas au maximum. C'est-à-dire que certains réservaient, mais qu'ils n'avaient pas concrétisé cette réservation, ils n'étaient pas allés jusqu'au bout. Et donc ça, c'est plutôt bien pour l'espace, c'est plutôt bien pour la calanque de Sugiton. Ce qui nous a permis de moderniser notre application en disant, puisque tout le monde ne concrétise pas sa réservation, autant qu'on puisse leur permettre de la remettre en jeu et que certains puissent accéder au dernier moment dans la limite des 400 sur ce giton, et qu'on puisse permettre finalement au plus grand nombre, dans la limite des 400, de fréquenter la calanque de ce giton. Sur les contestations, honnêtement, c'était marginal.
Aujourd'hui, donc 2 ans après la mise en place de cette initiative, donc sur la fréquentation, quel retour sur les usagers ? Vous l'avez un petit peu dit, donc c'est qualitatif, hein, c'est ça ?
Alors d'abord, sur la capacité de préservation des sols, des espèces et de la biodiversité, manifestement, il y a un intérêt majeur, c'est-à-dire que le piétinement est largement limité, et ça, c'est quand même le premier objectif. Le deuxième objectif sur la fréquentation, c'est qu'effectivement, on n'a pas une fréquentation qui est au maximum de la jauge, et que le retour d'expérience de ceux qui sont allés, et qui y allaient avant, nous disent... Franchement, on a passé un meilleur moment que quand c'était surchargé et l'expérience est nettement meilleure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand ils vont parler des calanques, quand ils vont parler de Sugiton, quand ils vont parler de cette expérience-là, ils vont en avoir un retour positif, alors qu'auparavant, ce n'était pas forcément le cas. Et donc, l'expérience naturelle, ils gagnent parce que ceux qui l'ont vécu sont en capacité de véhiculer un message positif. Et donc, ça incite aussi à ceux qui veulent découvrir de se conformer effectivement à la réservation. On a eu à un moment donné, au début, quelques-uns qui voulaient passer en dehors de la réservation. Nos agents sur le terrain ont vite réagi, ça a été pris en compte, certains ont pris des amendes, et finalement tout le monde est arrivé à prendre la réservation parce qu'ils ont vu, plus que l'aspect réexpression, ils ont vu l'intérêt de l'expérience positive du visiteur.
Ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez communiqué auprès du grand public suite à cette initiative. Vous en avez profité pour faire de la pédagogie, pour expliquer la préservation de ce site, etc.
Alors, ça a été l'occasion, effectivement, de sensibiliser le grand public, et à la fois par les médias, hein, puisque quand on a lancé l'application, ça nous a permis de répondre à des articles, enfin des journalistes et un ensemble d'articles qui ont voulu comprendre la logique, comme vous. Et donc la logique, c'était à la fois préserver, mais aussi sensibiliser. Et tout au long du parcours, puisqu'il y a 3-4 kilomètres à faire à pied pour aller jusqu'à Sugiton, nous avions deux postes d'information et de sensibilisation par des agents du parc à tous les visiteurs qui passaient. Ce qui fait qu'on a pu sensibiliser pas mal de visiteurs grâce à cette opération. Alors au début, c'était plutôt pour dire, est-ce que vous avez pensé à réserver? Si ce n'est pas le cas, vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'à Sugiton. Et sur les deux autres postes d'information et de sensibilisation, nous donnions des informations sur la pratique en mer, sur les espèces qu'on pouvait retrouver, comment on pouvait pratiquer un certain nombre de sports de nature, à quelles conditions, etc. Et puis la présentation du paysage, l'explication du paysage à ceux qui voulaient bien, évidemment, nous écouter. Ça a permis quand même de sensibiliser pas mal de gens.
Donc 2 ans après, est-ce que vous avez une réflexion pour faire évoluer ce dispositif sur ce site-là ou sur d'autres sites? Quelle réflexion vous avez par rapport à ça?
Alors d'abord, on essaye d'appliquer la gestion de la fréquentation à chaque site. Ce qui s'applique ici à Sugiton ne pourrait pas s'appliquer ailleurs. On a d'autres calanques qui sont en fond de calanque, qui ne sont pas du tout desservies de la même façon, qui n'ont pas du tout la même fréquentation. Là, on a choisi de limiter, de faire une jauge. Dans d'autres calanques, on va limiter les usages. Par exemple, sur la calanque d'Envaux, on a interdit le vélo, parce que le vélo est devenu électrique. Quand il fallait remonter d'Envaux avec la force moléculaire, c'était très compliqué, très difficile. Donc on réfléchissait avant d'y aller. Avec l'électricité, le vélo est beaucoup plus facile et il va beaucoup plus vite. Et donc il érode les sols, il déracine un certain nombre d'espèces, etc. Donc on a décidé d'interdire le vélo. Parce que c'était très préjudiciable et puis très dangereux pour les piétons qui remontaient. On avait de la même façon une fréquentation très importante de plaisanciers qui venaient mouiller jusqu'au bord de la plage. Et là aussi, on a repoussé et organisé des mouillages de façon à ce que le plaisancier ne puisse pas venir trop près, ne soit pas trop nombreux. Et puis les kayaks ne peuvent plus beacher, ils doivent s'accrocher sur un filin. Donc là, on a géré plutôt les usages. Et en fonction du fond de calanque, de son accessibilité, de son appétence pour le public, évidemment, nous avons des gestions tout à fait différentes.
D'une manière générale, sur la gestion des activités de loisirs à terre et en mer, les difficultés, on les gère justement en communiquant, c'est ça? Comment vous les faites accepter? Ça, finalement, vous ne rencontrez pas tant de difficultés que ça? Vous informez? Non?
La difficulté, elle est toujours sur le terrain et tous les jours pour les agents du parc national. C'est clair que on bénéficie effectivement d'une image parc national, très clairement, d'une image calanque. Ce sont deux marques qui sont accolées et qui se bénéficient entre elles. Dans une métropole encore de 2 millions d'habitants, avec des médias qui sont à la fois écrits, audiovisuels, radio, qui sont en nombre et en audience suffisante et qui nous permettent de communiquer sur un ton journalistique. Et on fait très peu de com institutionnelle finalement. On fait plutôt de la com sur des réseaux associatifs, des réseaux des collectivités locales. Et on passe par les médias qui sont très friands des sujets, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, les sujets des calanques et de nature et de biodiversité. Et manifestement, c'est ce qui porte le mieux parce qu'on est en capacité de développer des arguments. Et on ne fait pas de com, ou très peu.
Très bien. Merci Didier Ao. Je me tourne vers vous, Ferdi Louzi. Vous êtes le maire de Guayam. Merci d'être parmi nous à Paris. Vous êtes donc aussi président du Parc national de Guadeloupe. Un parc qui a renouvelé son engagement à la Charte européenne du tourisme durable, des espaces protégés pour la période 2023-2028. Est-ce que vous pouvez nous présenter le principe général de cet outil et quelle a été la réflexion au départ?
D'abord, bonjour à tout le monde. C'est notre troisième renouvellement. Et donc, c'est-à-dire que pour nous, ça représente énormément puisque la première attribution, on l'a obtenue en 2006. Et donc on s'était engagé pour faire en sorte que le tourisme soit abordé d'une autre manière, parce que jusqu'à maintenant, le tourisme en Guadeloupe, il était surtout balnéaire, sous une riviera, très concentré sur la partie grande terre de l'île de la Guadeloupe. Et donc, on avait tourisme de plage. Et donc, le parc national qui gère quasiment l'intégralité de la partie montagneuse et forestière a décidé de mettre cela en valeur et d'adhérer à la Charte européenne pour le tourisme durable, qui se présente sur plusieurs axes. D'abord, parce qu'il s'agit d'espaces protégés. Et ces espaces protégés, c'est le parc national. Au départ, sous la partie terrestre, en 2006. Et maintenant, on fait à la fois la partie terrestre et la partie marine, puisque nous sommes aussi en cœur de parc et en aire maritime adjacente. Ensuite, il fallait nous organiser pour les professionnels et les entreprises du secteur du tourisme, donc faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans la démarche de vertueuse pour obtenir le label de tourisme durable dans les espaces protégés. Et puis à la fin aussi, nous nous sommes intéressés sur un troisième axe aux opérateurs de voyage, aux agences de voyage qui vendent le produit, qui recommandent ou qui vendent les produits pour le tourisme dans les espaces protégés. Ça a été une volonté en Guadeloupe de faire en sorte qu'on puisse s'orienter davantage vers l'écotourisme. Ça a fait de nous, en 2007 par exemple, grâce à nos actions au niveau du parc national de la Guadeloupe, comme la première destination écotouristique de la Caraïbe. Et donc face à des pays comme la République dominicaine ou d'autres pays de la Caraïbe qui ont un tourisme de masse, un tourisme balnéaire, un tourisme all-inclusive, il nous fallait trouver une autre offre parce qu'on ne pouvait pas être forcément compétitif sur le niveau de service, sur le prix aussi, notamment sur les billets d'avion, le prix des hôtels. Et donc ça a donné une alternative intéressante à la Guadeloupe en nous ouvrant vers un écotourisme où d'autres destinations n'ont pas ces moyens que nous avons mis en place avec les différents outils au parc national de la Guadeloupe.
Mais vous pouvez nous donner quelques exemples de cette réorientation vers cet écotourisme pour qu'on comprenne bien?
Alors, des réorientations, on l'a fait d'abord sur la labellisation d'acteurs économiques. Au départ, c'était sous les acteurs et ensuite, alors on avait lancé la marque de confiance. Et maintenant, on est passé sur un plan national à l'esprit parc national, qui est une marque qui labellise tous les acteurs, tous les produits qui rentrent en la matière, que ce soit des gîtes, que ce soit de l'agriculture, que ce soit de l'artisanat, que ce soit aussi l'accompagnement des guides, etc. Donc on donne une labellisation pour des entreprises qui ont leurs produits ou leurs services situés dans des zones du parc national de la Guadeloupe, alors que ce soit un peu en cœur ou en zone d'adhésion. Deuxième élément, nous avons participé aussi aux travaux du conseil régional de Guadeloupe qui a la compétence en matière de tourisme en fournissant des éléments au niveau de l'observatoire du tourisme, en participant aussi à la stratégie régionale du tourisme qui était mise sur place et en intégrant davantage ce tourisme dans les espaces protégés, ce tourisme durable. Et ça, on ne le voyait pas systématiquement, on n'avait pas les données et on ne pouvait pas, à partir des données, à partir des chiffres, à partir des statistiques, on ne pouvait pas rectifier telle ou telle politique sur le plan du territoire. Un accompagnement des différents acteurs, par exemple, si je prends l'exemple sur la partie maritime avec des clubs de plongée, notamment sur les îles des pigeons qu'on appelait avant la réserve Cousteau. Et donc là, on leur a fait une charte de comportement pour limiter justement la pression anthropique, le nombre de plongées par an, le nombre de clubs qui devaient aussi avoir un agrément pour pouvoir exercer leurs activités. Et donc ça a été très bénéfique. Il y a aussi le système écologique qu'on a mis en place pour éviter la perte qu'on avait sur les récifs coralliens, parce qu'on sait que sur la partie maritime, c'est toute la biodiversité sur les récifs coralliens, la mangrove. Donc on a mis en place des écomouillages, là aussi, avec du financement européen, pour faire en sorte, et du financement de le ministère de tutelle, pour faire en sorte que toute la démarche vertueuse, elle soit là en permanence. On a demandé aussi au comité du tourisme de délivrer pour avoir ce qu'on appelle une information, de la pédagogie, une charte de comportement du tourisme, du touriste, parce qu'on fait le travail auprès des locaux, des autochtones, mais on oublie aussi que les touristes sont beaucoup plus nombreux que les autochtones. Et donc, on a travaillé avec le comité du tourisme des îles de Guadeloupe pour faire en sorte qu'on délivre systématiquement dans les hôtels, un peu partout, une charte de comportement lorsqu'on vient dans un espace protégé.
Donc, à vous écouter, vous avez mis en place une démarche globale, ambitieuse, en profondeur avec l'ensemble des acteurs concernés. Hein.
Avec l'ensemble des acteurs concernés et on va au-delà puisque on touche des professions comme les marins pêcheurs avec le comité régional du tourisme des îles de Guadeloupe. On sait que leur activité, la pêche, ça ramène de quoi servir les hôtels, les restaurants en matière de gastronomie. Là, on les a accompagnés aussi dans une démarche de pêche durable sur l'aire maritime adjacente, pas forcément en cœur, parce qu'on ne pêche pas en cœur de parc, mais sur l'environnement, pour protéger nos cœurs. Donc là, on a signé aussi une convention pour leur permettre justement de rentrer dans cette démarche de pêche durable pour éviter que ça touche encore une fois les récifs coralliens. On a aussi beaucoup travaillé avec les opérateurs touristiques qui font des visites en mangrove, qui font des visites aussi sur des sites qui ne sont pas forcément sous giron, sous protection du parc national de la Guadeloupe, en leur disant attention, il y a des îlets qui ne sont pas protégés par le parc et qui sont en train de subir une forte dégradation. Et là, on accompagne. Que ce soit le Conservatoire du Littoral ou les communes qui, dans le cadre des 300 mètres qui sont attribués aux maires, peuvent perdre au niveau des îlets qui ont une attractivité forte en matière touristique, en matière de paysage et en matière de plongée. Donc on travaille vraiment avec tous les acteurs. Cela me semble indispensable et on restitue dans le cadre de l'Observatoire Régional du Tourisme tous les éléments dont nous disposons.
Est-ce que la mise en place d'une stratégie ambitieuse vers un tourisme durable a suscité des résistances?
Alors, pas.
Et lesquelles? Ça vous fait rire.
Il y en a eu, il y en aura toujours, parce que certaines entreprises disaient « Oui, mais le parc veut nous empêcher de nous développer. » Alors, on a entendu ça. Et j'ai eu cette discussion avec l'UDE-MEDEF Guadeloupe pour leur dire « Non, le parc national n'est pas là pour empêcher. » C'est bien parce qu'il nous faut préserver ces espaces. Si vous voulez que demain, on ait du tourisme. On rentre dans une démarche de tourisme durable, c'est-à-dire de tourisme qui dure. Alors si les lieux, les espaces naturels sont dégradés, in fine, vous n'aurez plus de tourisme. Parce que qu'est-ce que les gens recherchent? C'est l'authenticité et la réalité. Donc si on n'a plus de récifs coralliens, si on n'a plus de mangroves, si on n'a plus de poissons, si on n'a plus de lambis, si on n'a plus de langoustes, s'il n'y a rien comme biodiversité, ben, les gens ils iront ailleurs, là où c'est mieux protégé.
Alors, vous l'avez dit, hein, c'est la troisième fois que vous renouvelez cette charte européenne du tourisme durable. C'est un petit peu l'heure du bilan. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quels ont été les leviers? Qu'est-ce que vous diriez, justement, de toutes ces actions qui ont été mises en place aujourd'hui?
Alors, ça nous a apporté beaucoup. D'abord, en termes de métier, on a pu former des agents du parc à ces métiers.
Professionnaliser, c'est ça?
Oui, on l'a professionnalisé. Alors, à la fois sur le cœur de métier qui est du parc, c'est la police, en termes d'environnement, mais aussi sur l'accompagnement qu'on fait, notamment sur les opérateurs touristiques, sur la pédagogie, sur la formation qu'on donne aux communes qui se lancent aussi dans leur projet de politique de développement durable sur l'aspect touristique. Donc on a vraiment apporté quelque chose de formidable. Deuxième élément, c'est que ça nous a permis aussi de mieux suivre, avec la participation de tous les partenaires, l'évolution de nos milieux, qu'ils soient protégés en cœur ou en zone d'adhésion, et là c'est sous la responsabilité des communes ou des autres acteurs qui rentrent dans une démarche de préservation. En cœur, on est en protection, à l'extérieur, on est plutôt dans une démarche de préservation. Et là aussi, ça nous a permis de responsabiliser toutes celles et tous ceux qui sont soit sous la base d'institutions, soit sous la base d'activités professionnelles, enclins à cela. On participe à la formation, on leur donne des outils d'observation. Ils nous remontent aussi des informations sur éventuellement l'évolution des milieux. Soit ils constatent une dégradation, soit ils constatent quelque chose de nouveau. Donc ce sont vraiment des sentinelles pour nous, les acteurs économiques, les usagers, pour nous permettre aussi de réagir, soit en décidant, comme on l'a fait récemment avec le Conservatoire du Littoral et une commune de Guadeloupe qui s'appelle Saint-Rose, on a décidé de fermer un îlet qui était en train de partir, l'îlet Carette, qui est un site remarquable, qui est visité énormément. Donc on a pris la décision de donner un peu de tranquillité en fermant l'îlet pendant à peu près un an. Et là aussi, il y a des décisions importantes à prendre si on veut préserver les sites et de manière à ce qu'ils puissent, encore une fois, je l'ai dit, durer. Et le dernier élément, c'est que ça nous a permis, parce que souvent, notamment sur la mer, la stratégie en mer, c'est l'État. Ça nous a permis d'emmener tous les acteurs du territoire, y compris la société civile, à participer à une forme de gouvernance en définissant des stratégies sur la mer, ce qui était jusqu'à maintenant réservé à l'État. Et donc cette ouverture, le Parc national de la Guadeloupe l'a donnée à travers sa charte.
Une dernière petite question. Est-ce que le renouvellement de de cette charte 2023-2028 va vous permettre de tisser de nouvelles perspectives. Vers quelles évolutions vous souhaitez aller?
Alors nous, on veut aller sur des évolutions en termes de coopération. Je ne vous cache pas que hier, quand j'ai été à Bruxelles recevoir certificat de charte européenne pour le tourisme durable dans les espaces protégés, j'ai rencontré d'autres qui ont reçu sur l'Espagne, l'Italie, la République tchèque. Et j'ai discuté avec des Espagnols qui m'ont dit, mais vous savez, nous, on obtient ça parce qu'on fait du tourisme durable dans sous la plongée. Et ils m'ont parlé de leurs clients qui venaient, bon nombre de clients qui venaient et qui parlaient des sites de plongée de la Guadeloupe. Et ils m'ont expliqué que ce serait intéressant qu'on puisse définir une coopération pour créer cette notion de saisonnalité. C'est-à-dire que quand il fait très froid en Europe, vous savez que la mer est en général entre 27 degrés et 30 degrés sur toute l'année en Guadeloupe. Et donc on peut coopérer pour récupérer des clients européens ou autres lorsqu'il y a des périodes comme ça en Europe où il fait très froid, et même si on met des combinaisons de plongée. Donc voilà un exemple. Et donc créer à travers ce partenariat européen un vrai circuit pour qu'on puisse mettre en avant tout le savoir-faire français et européen à l'international. Donc voilà une ambition qu'on veut partager et qui va nous permettre d'atteindre ce que nous demande le Conseil régional de Guadeloupe, à peu près 3 millions de touristes par an.
Très bien, merci beaucoup Ferdi Luzi. Je me tourne vers vous, Juliette Moiseau, pour savoir pourquoi et surtout comment prendre en compte les enjeux de biodiversité dans le secteur du tourisme. Et est-ce qu'il existe des outils recommandés par l'État ?
Oui, tout à fait. Alors, pourquoi prendre en compte ? Je pense que ça a été très bien dit précédemment. Je voudrais juste réinciter peut-être sur cet élément. Le tourisme, vous l'avez dit, c'est 98 millions de visiteurs en France, 8% de notre produit intérieur brut. Hein. Ça veut dire le poids économique que ça représente. Et ça a été très bien illustré à l'instant. Biodiversité, tourisme, c'est intrinsèquement lié. Il peut y avoir des impacts. Il y a des impacts, effectivement, du tourisme sur la biodiversité. Mais c'est aussi ce qui explique l'attrait de la France en tant que secteur. La biodiversité, ça fait complètement partie des raisons pour lesquelles on est un pays aussi attractif sur le plan touristique. Donc c'est extrêmement important de préserver cette biodiversité, de comprendre ses impacts, de les limiter pour aussi pérenniser l'activité. Et ça, je pense que c'est un point essentiel à prendre en compte. Dans les outils qui existent, alors il y en a, ils sont assez nombreux, mais un que je voudrais citer en particulier, c'est l'écolabel européen. Là aussi, on est sur un outil européen. Écolabel que vous connaissez, que les auditeurs connaissent peut-être. Alors souvent, on les trouve sur plutôt des produits de consommation. Hein. Visuellement, ça ressemble à une petite fleur avec le mot écolabel, mais on le trouve aussi sur des sites touristiques, hein, c'est possible. Il y en a un certain nombre en France. Et l'intérêt de ce label, c'est que derrière ce petit logo que vous voyez sur un produit ou sur un site, eh bien, il y a tout un ensemble de critères environnementaux qui doivent être respectés. Alors pas seulement en termes de biodiversité, ce qui est aussi l'intérêt, évidemment, on s'intéresse à tous les aspects de l'environnement. Donc il y a un cahier des charges avec des critères. C'est très ambitieux. Il y a un certificateur qui est indépendant qui va venir vérifier si le référentiel est respecté. Et en termes de critères, on va trouver par exemple des critères sur la gestion de l'eau, la gestion des déchets, le fait de ne pas imperméabiliser les sols, de ne pas utiliser de pesticides. Il y a aussi tout un tas de critères sur la sensibilisation des usagers. Et ça a été dit à plusieurs reprises, c'est aussi très important de ne pas faire un label uniquement en interne, mais bien que ça touche à l'extérieur. Donc il y a tous ces critères-là qui sont détaillés et qui sont très ambitieux sur le plan environnemental.
Il porte sur un site, cet écolabel, sur un service, il porte sur quoi ?
Alors ça porte effectivement sur des sites de toute nature différente. Alors, ça peut être des campings, des hôtels, des centres nautiques. Voilà, il y a plein d'exemples potentiels différents. Et vraiment, l'intérêt, il va être assez, assez diversifié. C'est un intérêt, effectivement, pour la structure qui va se faire certifier, parce que ça lui permet de savoir sur quels critères il doit avancer, il doit s'améliorer. Et ça, souvent, c'est une question qu'on nous pose. Comment faire ? Moi, je veux avoir une action en termes de biodiversité, mais je ne sais pas forcément quels critères utiliser. Et bien là, ça vous donne, on va dire, le mode d'emploi. Donc, ça fait progresser en interne. L'intérêt aussi, c'est de valoriser la démarche auprès des usagers, des consommateurs, des touristes. entre deux sites, entre deux endroits. L'intérêt, c'est de pouvoir distinguer lequel est meilleur sur le plan environnemental, sur le plan de la biodiversité. Et les labels, ça sert à ça. Ça permet très rapidement, visuellement, de pouvoir identifier et de pouvoir aussi récompenser l'acteur qui a consacré du temps, de l'argent à progresser sur le plan environnemental. Et puis, c'est un outil qui peut aussi servir dans un cadre un peu plus technique, mais celui des marchés publics, des contrats de concession. Donc, les acheteurs publics, collectivités qui nous écoutent, l'écolabel européen, ça s'utilise aussi dans un cahier des charges. Et ça, c'est assez utile. De la même façon, quand on se demande quels critères intégrer, je veux prendre en compte la biodiversité, mais aussi le climat, plein de choses, j'ai ce référentiel que je peux utiliser.
On peut dire aujourd'hui que c'est l'outil le plus exigeant, le plus global, le plus ambitieux en matière de tourisme durable pour préserver la biodiversité, Juliette ?
Sur les labels de services touristiques, oui, on peut dire que c'est le plus exigeant et en tout cas, c'est celui qui est promu par le ministère de la Transition écologique. Comme je le disais, c'est un label européen. Donc, pour reprendre l'exemple des partenariats, des coopérations, ça veut dire qu'on peut le trouver dans plein de pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est très pratique aussi pour la personne qui va voyager dans différents pays. Et elle ne va pas être déboussolée, elle va retrouver ce petit visuel un petit peu partout.
Et là, c'est quoi la tendance? Il y a de plus en plus de collectivités, de sites qui sont labellisés. Il y a une tendance à la hausse. Qu'est-ce que vous diriez?
Oui, tout à fait. Il y a une tendance à la hausse. Il y a à peu près 330 sites qui sont labellisés dans la France entière. Et le point que je voudrais aussi souligner, c'est que l'ADEME donne des aides pour obtenir ce label, notamment pour les plus petits acteurs, mais pas que. Donc, vous pouvez retrouver sur le site de l'ADEME toutes les aides qui sont disponibles. Ils sont ici aussi présents au Salon des maires. N'hésitez pas à aller les voir. Et c'est vraiment à souligner qu'il y a un appui disponible, un appui financier, un appui méthodologique.
Parce que qui peut le demander? C'est une entreprise, une collectivité locale? Qui peut solliciter cet écolabel?
Alors ça peut être des acteurs publics ou privés, des acteurs du tourisme, voilà.
Et donc, vous proposez donc un accompagnement pour les porteurs de projets? Comment ça se passe?
Il y a aussi un accompagnement qui est disponible. En fait, le financement permet justement de financer cet accompagnement qui va aider à mener la démarche en interne, à se structurer et au final à obtenir la certification dès lors qu'on remplit les critères.
Juliette, en plus de cet écolabel européen, donc il y a un autre outil disponible pour le secteur du tourisme. Il s'agit de la plateforme France Tourisme Durable. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et à quoi elle sert?
Oui, alors c'est une plateforme qui a été développée par nos collègues d'Atout France, qui est destinée à tous les acteurs du tourisme et qui ne traite pas uniquement des aspects environnementaux, mais vraiment de tous les aspects sociaux, environnementaux, dont la biodiversité. Et là-dessus, vous avez une mine d'outils, vraiment, c'est extrêmement précieux. Donc je vous encourage à aller regarder cette plateforme qui s'appelle Tourisme Durable. Et peut-être pour citer un outil qui figure et qui a été développé par le ministère de la Transition écologique, qui est un outil gratuit, un outil d'autodiagnostic. L'idée, c'est de permettre à tout acteur du tourisme, là encore, plein d'acteurs différents, ça va de une agence de voyage à un parc animalier, plein de choses différentes. Donc c'est un outil qui va s'adapter à ces différents types d'acteurs et qui permet de faire son propre diagnostic sur à la fois ses dépendances vis-à-vis de la biodiversité, en quoi je dépends de la biodiversité pour mon activité, quels sont les risques, quels sont les impacts et quels sont les leviers d'action que j'ai ou que je peux mettre en œuvre pour les réduire. Voilà, outil gratuit, vous pouvez vous en saisir. On vient tout juste de le déployer et on est aussi preneur de retours d'acteurs du terrain. Donc on est toujours ouvert à savoir si l'outil est utile, est pertinent ou pas. N'hésitez pas à aller le regarder.
Très bien, merci beaucoup Juliette. Merci à vous pour tous ces exemples, ces actions concrètes pour aller vers un tourisme durable tout en préservant la biodiversité. C'est l'heure des questions. Hélène, est-ce qu'on a reçu des questions d'auditeurs?
Oui, Jean, notre émission suscite des questions, en tout cas des précisions de nos auditeurs. La première question peut-être pour Juliette. Alors, nous avons mis sur le chat de l'émission les ressources présentées sur la plateforme et l'outil d'autodiagnostic. Est-ce que pour accompagner au mieux les territoires, Juliette, vous avez d'autres leviers et des dispositifs peut-être à nous partager pour un engagement sur un tourisme durable?
Oui, alors il y a beaucoup de ressources du côté du ministère de la Transition écologique, qu'on soit acteur privé ou acteur public. Peut-être, alors je ne vais pas tous les citer aujourd'hui, mais du côté des collectivités et des acteurs publics, on lance aussi pour tout ce qui a trait à l'intégration dans les marchés publics de considération environnementale, donc une nouvelle plateforme qui s'appelle achat-durable.gouv.fr. Vous pouvez retrouver aussi des ressources sur la plateforme Comet. Et puis encore une fois, spécifiquement sur le secteur du tourisme, vraiment la plateforme Tourisme Durable d'Atout France est à noter, c'est très, très, très intéressant. Et plus spécifiquement sur l'objet de la biodiversité cette fois-ci, la plateforme de l'association Auré, qui en partenariat avec l'Office français de la biodiversité et le ministère, met à disposition des ressources spécifiques sur le thème de la biodiversité auprès des entreprises.
Merci Juliette, on va mettre toutes les informations utiles sur le chat. Une autre question peut-être pour Didier Réo. Est-ce que votre démarche réservée, c'est préservée, a été une source d'inspiration pour d'autres territoires? Est-ce que vous avez été approché par d'autres territoires qui ont envie de s'inspirer de votre initiative?
Alors effectivement, ça a suscité la curiosité, la demande d'information et aussi la demande du suivi de ce que ça a pu donner effectivement comme résultat. Comme je le disais, c'est une opération qui est adaptée à un site particulier, avec essentiellement un point d'accès par une piste DFCI, donc très, très praticable, et puis ensuite, je dirais, une descente un peu plus chaotique, mais qui méritait d'être organisée. Ça ne peut pas être le cas partout, et donc on a des points d'information et aussi un point culminant, un point de contrôle d'accès. C'est pas le cas, ça peut pas être le cas partout, donc il faut trouver des solutions qui soient adaptées. Je crois que sur la solution technologique de la réservation gratuite 3 jours avant et qu'on puisse remettre en jeu ces places si on ne vient pas, ça c'est un outil qui ne fait plus débat et qui montre bien qu'on est en capacité de gérer un espace naturel, de gérer la fréquentation dans de bonnes conditions, sans forcément pénaliser le visiteur, soit par un contrôle d'accès trop fort ou un prix qui ne serait pas accepté, puisqu'on fréquente des espaces naturels, je le répète, qui sont généralement propriété du public et donc financés par le contribuable. Donc il n'y a aucune raison qu'on soit en capacité après de leur demander un prix pour accéder à un bien qui leur appartient. Donc la logique, c'est de réserver la gratuité, mais pas dans n'importe quelle condition. Donc on a des collègues des parcs nationaux, notamment un peu en montagne, sur des points reculés, qui nous ont consultés, qui, d'ailleurs, le dispositif est carrément public, hein, puisqu'on l'a communiqué à l'OFB, bien sûr, qui connaît le dispositif, et à l'ensemble de nos collègues qui l'ont demandé. Donc, ils sont en capacité de l'adapter, et les développeurs de cette application sont en capacité aussi de répondre à cette demande-là.
Merci Didier Réo, c'est très clair. Et peut-être une dernière question pour Ferdi Luisi. Est-ce que vous pouvez nous partager, allez, le prochain défi que vous souhaitez relever sur votre territoire en matière de tourisme durable?
Disons que lorsqu'on regarde les chiffres de l'année 2023, on a eu 2 millions de visiteurs en Guadeloupe et 100% des touristes sont passés sur un voire plusieurs sites du parc national de la Guadeloupe. Donc la région Guadeloupe a fixé un objectif de 3 millions de touristes et rester toujours dans les 100%.
Merci.
Très bien, merci beaucoup Hélène pour ces questions. Voilà, c'est la fin de cette émission en direct du Salon de la biodiversité et du génie écologique au sein du Salon des maires et des collectivités locales. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site et l'application de Radio Territoria. Et je vous retrouve demain avec Hélène pour la dernière émission qui sera consacrée à la biodiversité au cœur de la transition écologique des territoires. Un an de mise en œuvre de la stratégie nationale de la biodiversité. Merci à tous. À demain.
Vivez le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.